Il est 8h.
Le risque de la division des communautés, je ne le souhaite pas, mais je comprends la colère des chrétiens.
Nice se réveille en colère ce matin, y compris cette femme musulmane. Nous serons sur place dès le début du journal. Après l'émotion, c'est aujourd'hui l'exaspération. Le débat monte dans la classe politique. L'opposition fustige la politique migratoire. L'assaillant tunisien migrant clandestin était arrivé en Europe il y a à peine un mois. Nous ferons le point sur l'enquête. Un témoignage dans ce journal, celui de Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, bouleversée face à la remontée du souvenir de la mort de son frère en 2016. À la une également, la France reconfinée depuis minuit. Défi du gouvernement, trouver plus de 4000 places en réanimation en 2 semaines pour éviter la saturation. Comment faire? On vous explique. Et puis bienvenue à Retraité Land. On vous amène en Floride, dans la plus grande communauté de retraités du monde, des seniors plutôt pro-Trump d'ordinaire. Mais leur confiance en le président sortant semble s'effriter.
À nouveau, la France frappée par des attentats. La ville de Nice meurtrie. À nouveau. Et la colère politique qui s'exprime fort. Il faut s'exonérer des lois de la paix, dit Christian Estrosi. Le maire de Nice répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un bégaiement macabre de l'histoire. 3 fois en à peine un peu plus d'un mois, le terrorisme islamiste a frappé la France. Et cette fois, l'émotion cède la place à la colère. Nice se réveille, touchée une nouvelle fois par le terrorisme. 3 victimes hier à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, 4 ans après l'attaque sur la promenade des Anglais.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes à Nice, Frédéric Michel, tout près de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, oui. Oui, il y a eu recueillement hier dans plusieurs quartiers de la ville. Mais ce que vous ressentez surtout sur place ce matin, c'est l'exaspération des habitants.
Effectivement, Nice, ville martyre, comme le titre à la une Nice Matin. Les Niçois, déjà meurtris, vous l'avez dit, par le 14 juillet 2016, ont donc vécu une nouvelle journée éprouvante. L'ambiance était lourde dans les rues hier et cela risque de durer. Les sentiments sont mêlés au choc et à la peur. S'ajoute la colère. Sephora est une fidèle de la paroisse attaquée. Elle connaissait bien le sacristain assassiné.
C'est bien de mettre les bougies, de sortir les fleurs, de dire il ne faut pas faire l'amalgame. En attendant, nous mourons. Et nous, les chrétiens, on est persécutés. C'est ça, en fait. Je suis en colère. Je suis en colère. On devient une minorité. C'est à nous de nous cacher. Non, c'est pas à nous de nous cacher. Non, ça doit cesser, ça.
Devant le cordon de sécurité établi à quelques centaines de mètres de la basilique, Sandrine, une jeune niçoise, est venue avec un groupe d'amis.
Il y a eu des gens qui ont donné leur avis. C'est bien parce qu'on peut parler, mais des fois ça va un peu trop loin. Du coup, la colère entraîne la colère, qui entraîne la colère, et qu'est-ce qui va être après? Qu'est-ce qui va se passer?
Pour cette mère de famille musulmane, la crainte, c'est l'escalade.
Le risque de la division des communautés, je ne le souhaite pas, mais je comprends la colère des chrétiens. Ils pensent que ce sont les musulmans alors que ce ne sont pas les musulmans qui font ça.
Dans la soirée, 200 identitaires niçois ont défilé jusqu'à Notre-Dame de l'Assomption. Ils ont déposé une gerbe de fleurs et entonné une Marseillaise. Et ce matin, dans toute la ville, les drapeaux sont en berne.
Frédéric Michel, en direct de Nice pour Europe 1, au lendemain de cet attentat. On en sait plus ce matin sur l'assaillant. Guillaume Bier, vous nous avez rejoint. Cet homme, c'est surprenant, il avait intégré l'espace européen tout récemment.
Oui, les enquêteurs savent que ce Tunisien de 21 ans est arrivé en Italie dans le flux des migrants par l'île de Lampedusa où il a débarqué le 20 septembre. Un clandestin interdit de territoire par les Italiens, mais laissé libre. Il est donc arrivé en France il y a quelques jours à peine, inconnu des services de police. Grâce aux enregistrements vidéo d'hier matin, les enquêteurs savent qu'il a retourné ses vêtements en gare de Nice, comportement typique des djihadistes avant d'agir. Les images le montrent sur son trajet jusqu'à la basilique où 2 téléphones portables ont été retrouvés. Ils sont analysé pour y déceler des indices, des contacts. L'une des questions, c'est de savoir si ce terroriste a quitté la Tunisie dans le but de commettre cette attaque, puisqu'il est parti 3 semaines après la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo.
Précision, signé Guillaume Bier pour Europe 1. Je précise que l'assaillant touché par les balles des forces de l'ordre est toujours hospitalisé, selon les dernières informations, pronostic vital engagé.
C'est une nouvelle vague d'émotions partout en France et peut-être plus encore qu'ailleurs. À Saint-Étienne-du-Rouvray, terre du père Hamel, égorgé en 2016, en plein office dans son église.
Et ce matin, nous voulions vous faire entendre le témoignage de Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné. Elle a aujourd'hui 79 ans. Elle vit l'attaque d'hier comme un écho très douloureux à la mort de son frère.
Ça a ravivé très violemment notre douleur, notre peine, qui n'a cessé d'être depuis 4 ans. Cette injustice qui nous est arrivée... Un beau jour ensoleillé du mois de juillet, On souffre avec les personnes qui ont subi récemment ces attentats.
On entend dans votre voix, vous semblez presque résignée.
Ah oui, c'est un sentiment de retour en arrière et encore. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Non, on n'a pas avancé, ça c'est certain. On n'a pas avancé. Je ne doute pas que des choses sont mises en place, mais ça se met en place à retardement à chaque fois. Et c'est là où le bât blesse et qu'il faut absolument se redresser avec vigueur et sans colère ni haine, mais agir intelligemment.
Et aujourd'hui, quand vous allez à l'église, comment vous vous sentez ?
Sur le chemin, on pense toujours que l'inévitable peut arriver. Le terroriste, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, que ce soit moi, ma famille, la famille du Père Hamel ou d'autres gens qui se rendent à l'église.
Vous avez peur ?
Oui. C'est pour nous faire comprendre que notre religion est méprisée. On est en droit d'avoir peur.
Le témoignage de Roselyne Hamel, 79 ans. Sur Europe 1, la sœur du père Jacques Hamel assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, les souvenirs douloureux qu'a fait remonter l'attentat de Nice. Elle se confiait à Roman Hockey.
Et après cet attentat, le gouvernement hausse le plan Vigipirate à son seuil le plus élevé. Un conseil de défense doit se tenir aujourd'hui.
8h06 sur Europe 1. Depuis minuit, la France est donc reconfinée. Et sur le front de l'épidémie, plus de 3100 malades en réanimation. 4 fois plus qu'à la mi-mars dernier. D'ici 2 semaines, ils seront 9000.
Il faut donc vite porter les capacités des services d'urgence de 5800 à 10 000 places. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant-hier. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Alors concrètement, comment on les trouve ces places ?
Alors d'abord, les hôpitaux vont rouvrir tous les lits fermés par manque de personnel. Il y en aurait environ 400 dans tout le pays. En déprogrammant les opérations non urgentes, qui a déjà commencé dans presque toutes les régions, ça permettra de repositionner des infirmiers qui travaillent normalement dans les salles d'opération ou de réveil, dans les services de réanimation. Ensuite, il faudra pousser les murs, transformer un service de pédiatrie ou de chirurgie par exemple, en réanimation. On rappellera aussi la réserve sanitaire, les médecins à la retraite, les étudiants en médecine. Mais avec cette saturation du système hospitalier qui arrive, une perspective hante déjà de nombreux médecins comme Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Le risque, c'est qu'on soit amené à être obligé de choisir les patients qui pourront bénéficier de la réanimation. Malheureusement, vu la dynamique de l'épidémie, pour les 2-3 semaines qui viennent, c'est-à-dire avant qu'on ait l'effet bénéfique du confinement, j'ai peur qu'on soit obligé à un moment de faire des choix qui poseront des problèmes sur le plan éthique, sur le plan sociétal et sur le plan humain.
Enfin, en ultime recours, l'armée pourrait prêter main forte aux hôpitaux, comme lors de la première vague des hôpitaux de campagne, comme celui qui avait été installé à Mulhouse, pourrait voir le jour très vite. Chaque ville dispose d'un plan pour monter ses structures temporaires. À Marseille, ça pourrait être par exemple dans le stade Vélodrome ou dans des ferries restées à quai et transformées en hôpitaux flottants.
Pardonnez-moi Victor, je me permets de vous couper. Ce qu'on vient d'entendre, ce médecin qu'on vient d'entendre, on a déjà entendu ça ?
Non,
on se perd un peu dans les témoignages autour de cette crise depuis le mois de mars.
Pas
on
n'a
jamais entendu ça encore.
Il dit que c'est effectivement pour la première fois qu'ils vont devoir choisir.
Les précisions signées Victor Dolande. Faut-il le voir comme une volonté de passer en force le confinement ? Europe 1 vous révèle ce matin que les magasins Fnac Darty seront ouverts aujourd'hui. Partout en France. Le groupe en a le droit selon une note interne de la direction que nous avons pu consulter parce que le groupe vend notamment du matériel informatique, des téléphones, tout ce qu'il faut pour télétravailler.
Oui, mais voilà qui ne va pas plaire aux libraires parce que Fnac Darty vend aussi des livres. Mais les librairies, elles, doivent fermer. Alors, pour limiter la casse, les autorités ont autorisé le click and collect, la vente directe après réservation sur Internet.
Pas sûr que cela suffise à sauver la filière, comme l'a constaté hier Lionel Gougelot dans le Nord, au milieu des derniers clients avides de lecture avant le confinement.
C'est le rush des derniers clients avant confinement. La librairie La Forge de Marc-en-Barœul, Gwenaëlle Bell, la responsable, espère que le click and collect, la vente de livres après réservation sur Internet, lui permettra de limiter la casse.
C'est absolument nécessaire à notre survie, non seulement en termes de vente, mais surtout en termes de présence sur le territoire auprès de nos clients. Il ne faut pas que nos clients nous oublient. D'ailleurs, on est aussi capable de faire du conseil par mail, par téléphone, ce qui peut permettre d'avoir le bon livre pour la bonne personne, en plus du click and collect.
À la grande librairie du Ferry du Nord, grâce à une adolescente adolescentes profitent d'une dernière flânerie au rayon des livres jeunesse.
On peut toujours commander par internet, mais c'est pas non plus pareil de pouvoir regarder dans les rayons, regarder tel livre qui m'intéresse, trouver peut-être un truc qu'on n'avait pas vu mais qui paraît bien.
Alors Pierre Courcière, le PDG du Furet du Nord, alerte le gouvernement. Les librairies devront rapidement rouvrir pour les fêtes de fin d'année.
La période de fête d'année est fondamentale. Si on devait ne pas réouvrir rapidement, vous avez 3000 libraires indépendants en France, plus nous et quelques autres, mais qui seront extrêmement fragilisés. Et ils le sont déjà par rapport à ce qui s'est passé en début d'année.
Une question de survie pour les libraires, d'autant que parallèlement, le livre sera toujours vendu en grande surface ou sur les plateformes internet. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et l'économie fortement impactée, bien sûr, par la période trouble que nous vivons. Le gouvernement table désormais sur une récession de 11% en 2020, annonce à l'instant Bruno Le Maire.
Les Américains appellent cela le money time, les ultimes instants d'un match. Un match sous haute tension. Nous sommes à 4 jours de l'explication dans les urnes entre Joe Biden et Donald Trump.
Scrutin présidentiel et le Covid, toujours bien sûr l'un des thèmes centraux de cette fin de campagne. Alors que le pays a enregistré plus de 91 000 contaminations hier, record en 24 heures, les deux candidats étaient en Floride.
La Floride où vous vous trouvez, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
Comme tous les jours dans le journal de 8h, on retrouve votre carnet de campagne. Vous avez sillonné les États-Unis pendant 2 semaines. Dernier épisode aujourd'hui.
En Floride, 29 grands électeurs en jeu de taille et ça s'annonce serré parce qu'il y a incertitude sur le vote des seniors. C'est une partie de la base électorale de Donald Trump, mais elle semble s'effriter, vous l'avez constaté Théo, dans un endroit, alors pour le moins singulier, un endroit interdit aux jeunes. Ça s'appelle The Villages, la plus grande communauté de retraités du monde.
Oui, paradis au soleil pour retraités argentés. 83 km² de lotissement sécurisé, de parcours de golf ornés de palmiers. Pour s'installer ici, il faut avoir plus de 55 ans. Comme beaucoup, Joan se déplace surtout en voiturette de golf sur laquelle elle affiche ses couleurs politiques. Et l'autocollant sur son pare-choc vient de changer de couleur.
Ça disait « fier républicain », mais je l'ai changé pour démocrate. J'étais républicaine, mais Trump a détruit notre pays. Dès le début, il savait que ce virus était grave. Et il n'a rien fait. Il n'a pas écouté les médecins. Si on avait porté le masque dès le début, on n'aurait pas eu autant de morts. Je vais avoir 76 ans et j'ai peur pour ma santé et ma sécurité.
Au point donc de changer de bord politique, comme son voisin Jeff, qui lui aussi votera Biden.
On a un ami parti en soins intensifs il y a 2 jours parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il n'est pas sorti d'affaire, il est encore sous oxygène. Trump dit que le virus est parti, que c'est fini. Mais non, non, 83 000 contaminations hier, c'est un nouveau record. Je prie tous les jours pour que Biden gagne.
Les plus de 65 ans représentent 80% des victimes du Covid aux États-Unis, ce qui explique chez certains ce changement de discours. Mais l'équipe de campagne du président reste assez confiante sur le soutien des seniors. L'écrasante majorité des voiturettes aux Villages affiche toujours un sticker Trump. Il faut le défendre, explique Joanne.
Il a sorti ce pays de l'ornière. Évidemment que c'est dommage cette crise, mais il n'est pas médecin. Et même les médecins ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'on lui reproche, c'est ce virus, mais il a relevé l'économie. Tout le monde avait retrouvé du travail.
Et d'ailleurs, tous les retraités gagneraient à ce qu'ils soient réélus, poursuit Marjorie au carrefour suivant, en faisant la liste de tous les accomplissements qui soulagent son portefeuille.
Nos fonds de pension ont grimpé en bourse, ça nous rapporte de l'argent. Il force les labos pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments. Il est la meilleure chose qui nous soit arrivée.
Go Trump! Mais jusqu'au bout, les militants démocrates occupent l'espace comme ils peuvent. Un avion passe au-dessus de nos têtes, une banderole s'étire dans le ciel. Le message, votez Biden.
Théo Manval pour le dernier carnet de campagne de l'élection présidentielle américaine. Vous nous avez accompagnés pendant 2 semaines. Tous vos reportages à retrouver sur Europe 1.fr.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 8h sur Europe.